problème important qu'on a noté, c'était News World à Perth en Australie. On a envoyé quelque chose de vendredi pour vendre un nom de domaine, une base de données de bureau d'enregistrement, et l'impact aurait pu être sur la stabilité de l'Internet aurait été important, comme on le comprend tous. La diapo que je vais vous montrer vient d'un film. Qui s'appelle Ice Age 2. Vous verrez, c'est ce qu'on veut faire. On veut tirer parti de l'Internet. On voit des failles, on voit des menaces. Et on peut essayer de bloquer ces menaces, de les contrer, mais si on fait trop de choses à la fois, il est possible que nous allions tous chuter, faire une chute.
Thank you very much.
Merci, merci beaucoup. C'est difficile de sourire autant. Et je passe la parole à Nigel. Merci.
Vous avez entendu cette introduction. Je pense que j'ai l'impression que je travaille avec ICANN depuis toujours. Ça m'intéresse professionnellement aussi bien je m'intéresse aussi bien à l'Internet que à la loi. Il y a beaucoup d'avocats, de juristes à l'ICANN et il y a rien de pire. On me dit qu'il n'y a rien de pire qu'un passionné d'Internet qui devient juriste, mais si, il y a aussi les juristes qui deviennent des passionnés d'Internet. Je voudrais vous donner quelques informations générales, quelques points qui peut-être posent plus de questions qu'elles ne proposent de réponses, mais qui pourront lancer les débats et qui pourront peut-être, à terme, fournir quelques réponses, mais au moins des voies, peut-être pour d'autres remises en question. Donc, les trois catégories que j'ai mises, ici, c'est l'illégalité, le caractère illégal, illicite et le comportement antisocial. Si vous connaissez Kieran McCarthy, il a écrit un livre qui s'appelle Sex.com, qui porte sur le vol d'un nom de domaine. Donc, si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas rencontré ce cas, n'achetez pas ce livre, Ron. Allez acheter ce livre. C'est la fraude, les noms trompeurs, etc. Sont utilisés dans l'hameçonnage. La criminalité, c'est simplement la criminalité qui est faite par le biais d'un nom de domaine. Il y a un certain nombre de tout ce qui est illicite. C'est très, très familier, donc le cybersquatting, notamment en ce qui concerne les marques déposées. Un nom de domaine pourrait être enfreindre la loi. Donc, vous pouvez dire Nigel Roberts est un voleur.com, ça pourrait être fait comme site. Le forage de données, c'est encore une autre. On peut utiliser par exemple Whois pour utiliser les bases de données. Je ne veux pas dire grand-chose sur l'activité, le comportement antisocial. C'est en général légal, mais c'est indésirable dans certaines sociétés. Et c'est le cas, par exemple, dans l'hébergement de certains sites. Autre aspect, l'expression, la liberté d'expression. On y tient beaucoup en Europe et aux États-Unis, mais même ça peut être illégal dans certaines sociétés. C'est un problème. Est-ce qu'on divulgue les données des registres dans un pays totalitaire où ils essaient de trouver qui utilise les téléphones portables pour obtenir des informations sur des pays où, par exemple, où il y a des événements qui se passent maintenant. Donc pourquoi est-ce qu'on avait un WIS qui est mondialement accessible? Les considérations politiques varient énormément d'une juridiction à l'autre. Il y a une discontinuité entre les attitudes à l'intérieur des États-Unis et l'Europe, sans parler des autres sociétés, des autres juridictions. Donc nous allons parler de l'application des lois et des CCTLD. On peut l'interpréter de deux façons. Pourquoi est-ce que le CCTLD gère les responsabilités pour l'application des lois? Et quelle est la relation des CCTLD avec les organismes d'application des lois? Et je pense que c'est peut-être plus parlant pour cette assemblée. Les CCTLD ne sont pas des organisations d'application des lois. Nous ne le sommes pas et nous ne devrions pas être un substitut pour la législation. C'est la même chose pour l'ICANN ou pour l'exécutif. Nous ne remplaçons ni le judiciaire, ni l'exécutif, et ni le législatif. Aucun des trois pouvoirs. Mais il y a une position, une obligation pour nous, qui est de protéger les droits des autres dans l'application, de protéger la vie privée des autres dans une société. Notamment le droit à la vie privée et la protection des droits. Donc, il faut donc travailler avec les agences appropriées, où qu'elles soient dans votre pays, pour atteindre ce but de protection des individus. Comment peut-on obtenir ce résultat? On peut parler, on peut dialoguer, on peut prendre le téléphone. La police, par exemple, il y a différents niveaux de connaissances. On se rencontre ici à ICANN et on rencontre les veilleurs. Et d'autres peuvent avoir, on peut avoir des difficultés parfois. Quand il y a eu le tsunami, il y avait un problème en Angleterre au sujet qui avait trait Donc j'avais un spam en ce qui concerne un site, et donc traiter avec la police était assez difficile. Il y avait très peu de gens qui connaissaient bien la situation, et c'était très difficile de trouver l'officier, le membre du personnel qui connaissait bien le problème. Donc il faut considérer l'environnement dans lequel les organismes d'application des lois opèrent, par exemple. Ce qui est émané de la réunion du Mexico a été très intéressant. Pendant 5 ans, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que les organismes d'application des lois n'étaient pas présents sur le WIS. Et j'ai compris quand une requête d'assistance mutuelle prend des mois. Et je ne sais pas s'il y a une réponse à ça. Dans le contexte de la gestion des CCTLD en Europe, il y a des applications pour tous. Donc il y a des droits de convention qui correspondent assez aux droits constitutionnels aux États-Unis. Le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie de famille. Il y a des lois pour la protection des données et des lois qui permettent un accès licite à différentes données, comme par exemple les téléphones, l'Internet, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand on traite de CCTLD européens où il y a des gens honnêtes en dehors qui souhaitent obtenir des données? Comment est-ce que l'on fait cela? C'est une question d'équilibre. Mais la divulgation des données de registre, ça ne passe pas nécessairement par WIS. Le registre peut avoir entre les mains d'autres données. Ça peut être des données de la circulation, des données de trafic, des données d'enregistrement. J'essaye de le... Ce sont les directives qui doivent être suivies. Cela doit être conformément à la législation qui est nécessaire dans une société démocratique et proportionnelle à l'objectif à atteindre. Je pense qu'il est possible d'obtenir un accord entre les organismes d'application des lois et les gestionnaires de CCTLD sous forme de protocole d'accord, un peu comme la clause contractuelle recommandée par l'Union européenne pour la transmission licite des données personnelles en dehors de l'EEA, par exemple vers les États-Unis ou l'Inde. Et la dernière question que je vais poser dans cette présentation, et peut-être que certains d'entre vous pourront avoir des suggestions à ce sujet, comment pouvez-vous, à quoi ressemblerait un tel accord? Et comment est-ce qu'on peut l'établir? Est-ce qu'il y a commentaires à ce sujet? Chris, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Je vais être très bref parce que ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'entendre les interventions des autres. Et vous m'avez certainement suffisamment entendu pour la semaine. Je vais être très rapide. Je voulais simplement mentionner le fait, parler de ce qu'on fait des données de WIS. Les données de WIS sont très précises, ne sont pas divulguées au-delà des, à part les noms des bureaux d'enregistrement, mais nous avons une série de protocoles avec un certain nombre d'institutions qui leur permet de nous poser, de nous demander des informations et nous leur fournissons ces informations à condition qu'ils nous en fassent une demande. C'est une question d'équilibre entre le respect de la vie privée et le besoin d'information. Qu'il s'agisse de la cybercriminalité ou pourquoi est-ce qu'on appelle ça la criminalité électronique, c'est la cybercriminalité. Il y a un manque, on ne comprend pas très bien les responsabilités, qui est responsable de quoi. Et cela retarde les choses. On sait tous ce dont on est responsable, mais les gens ne le savent pas forcément. Donc c'est une difficulté. Je vais vous donner un exemple. Nous avons l'une des banques australiennes, la National Australia Bank, qui est connue sous le nom de la NAB. Donc il y a un nom de domaine, nab.com.au, et j'ai eu un appel. Il m'a fallu 2 jours pour que les gens de la NAB me contactent parce que nab.com.au avait été utilisé par un organisme qui n'était pas la banque et qui était utilisé pour l'hameçonnage. Et la personne qui m'a contactée de la banque était très frustrée et très mécontente, ce qui se comprend. Cette personne voulait que les choses soient faites tout de suite, que le nom de domaine soit immédiatement supprimé parce qu'il ne pouvait pas avoir un enregistrement légitime du nom de domaine. Mais c'était le cas pourtant. L'enregistrement était légitime par un groupe comptable d'Australie-Occidentale qui avait ce nom de domaine depuis très longtemps, et depuis 1997 ou peut-être même plus. Et le problème n'était pas à ce niveau-là. Le problème était que les gens qui les hébergeaient étaient compromis. Et ce site Internet est utilisé pour de l'hameçonnage. Et donc, il m'a fallu à peu près 5 minutes pour comprendre le problème et 10 minutes pour le régler. mais il a fallu 2 jours pour que me contacter. Donc, il faut véritablement que les lignes de communication soient ouvertes, pas seulement dans nos CCTLD, mais à l'étranger, à travers les frontières d'un pays à l'autre, et que soit introduit également, que la police australienne puisse nous présenter au FBI, etc. Je voulais ajouter également, Steve, vous êtes également listé comme sous comme registrant Donald Duck. Non. Donc, si c'est le nom de Capri, mon partenaire, Donald Duck. Steve, est-ce que vous voulez répondre? Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas hispanophone, je vous demanderai de prendre vos écouteurs. Et c'est canal 1 pour écouter en anglais. En français, c'est canal 2. Et si vous parlez et vous comprenez très bien l'espagnol, vous n'avez pas besoin de prendre vos écouteurs.
I prefer speaking English because my Spanish is very, very bad. Primero que nada quiero agradecer a los traductores porque están, creo, solo traduciendo para mí. Nadie más tenía los audífonos en español. Segundo, agradecerle al ICANN porque esta posibilidad de poder hablar en el lenguaje nativo nos va a ayudar un poquito.
Y había una persona. Merci donc pour aux interprètes. Et donc vous êtes invités à mettre vos écouteurs. La première chose qu'il faut comprendre concernant les CCTLD en Amérique latine, c'est que nous avons des origines différentes gouvernementales, des CCTLD gouvernementaux, d'autres de la société civile, dans les universités nationales. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la relation avec notre gouvernement. Donc, au niveau des CCTLT du gouvernement, sont souvent compliqués parce qu'ils sont dans différents bureaux, dans différentes adresses. Et dans certains pays, c'est le ministère des Communications, mais dans d'autres pays, il n'y a pas de contact. Donc, il nous faut également comprendre qu'en Amérique latine, notre pays a. C'est un pays jeune ou des pays jeunes et la relation entre l'université, le gouvernement et la société civile sont compliquées. Donc, comment travailler avec les agences gouvernementales chargées de l'application des lois qui sont du côté du gouvernement? Et est-ce qu'ils sont en cours de formation? Est-ce qu'il y a une formation donc, pour pouvoir dialoguer? On a commencé une relation avec le Code Pays, avec l'agence chargée de l'application des lois, et on a eu des ateliers sur les aspects juridiques pour le manuel opérationnel relatif au CCLTD et le lien avec les agences de police. Et à Panama, nous avons posé des questions. Je n'ai pas les réponses à ces questions. Je ne les avais pas à ce moment-là. Mais ils peuvent nous aider à trouver le problème. Un des ateliers, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ces noms de domaine, le domaine, nom de domaine xyz.com ou .p, par exemple. Donc, ce qu'ils voulaient savoir, en fait, c'était qu'était le nom IP derrière cette adresse. Ils ne voulaient pas savoir quel était le détenteur du nom de domaine, parce que lorsqu'on ouvre, il y avait un nom du genre comme Mickey Mouse ou un nom fantaisiste, parce que ces enregistrements sont autorisés dans le registre .p. Donc, ce détail n'avait pas d'importance. Il aurait été utile pour suivre. Il aurait été utile de savoir qui payait, parce que le numéro de carte de crédit pouvait être retrouvé, mais c'est une carte qui avait été en fait clonée et c'est illégal, mais il ne pouvait pas l'identifier. Ce qu'il voulait surtout, c'était l'adresse IP et le numéro IP. Et en Amérique latine, c'est souvent un détail qui est protégé par les lois sur la vie privée. Et c'est la seule façon de l'obtenir. Il faut un ordre de la justice. Ça peut prendre un mois. Et tout est perdu. Et l'enquête piétine. C'est vraiment grave parce que ce que l'agence voulait faire, c'était de trouver le numéro IP et les informations de CCTLD disaient on veut le numéro IP. Si vous voulez savoir qui est derrière cette IP, il faut que vous alliez au prestataire ou à l'hôte pour trouver qui est ce numéro. Donc, par Whois. Ils ont voulu donc avoir accès à Whois et directement, même si c'est gratuit, donc vous pouvez avoir accès à ces tableaux. Il suffit de remplir un nom de domaine que vous souhaitez, vous aurez un numéro. Donc, qu'est-ce que l'agence de police a fait? Ils ont envoyé des lettres par le secrétaire. Et elle est arrivée au code pays. Plusieurs jours se sont écoulés. Et ils attendaient une réponse, donc pas par email, ils l'ont reçue, mais par sur papier. Et donc l'adresse, les coordonnées devaient être validées pour que l'information soit fluide. Donc c'est une solution très pratique, mais il fallait des ressources et beaucoup de papier pour éviter de couper des arbres. L'autre chose, il voulait savoir des précisions à partir du Whois, le nom, et il pouvait dire, voilà, le nom, je veux dire qu'on m'a donné, donc il n'y avait pas d'accord sur ce point. On disait que les informations, les coordonnées, dans le Whois, c'est comme un enregistrement. Donc, une fois que c'est terminé, lorsque la police a demandé à le faire et que tout le monde était d'accord, pour former à partir de CCTLD qui a plus d'informations, de formation et qui a une sécurité, donc ça a été suivi, et puis à la capacité de résoudre les litiges avec la police. Et il souhaitait écouter le code le pays et ne pas l'avoir comme opposant. Lorsque les banques sont victimes d'hameçonnage, elles envoient des lettres qui disent « vous êtes complice » dans une action d'hameçonnage, mais aidez-moi parce que j'ai besoin de savoir qui fait l'hameçonnage. Et ça, c'est un cas réel du Venezuela qui a été signalé tout à l'heure. C'est que ce code payé fait partie du ministère des Communications. Et donc, c'est un bureau gouvernemental. D'accord, bien. Le problème du code payé au Venezuela, c'est que l'agence des noms de domaine, on peut l'appeler, n'était pas dans le même ministère que celui de la police. Et donc, pour croiser les informations entre les agences, il fallait un mandat d'un troisième ministère. Donc, comme ça, c'était très compliqué. Et également, ils n'ont pas réussi parce qu'il y avait, une accusation d'une personne à une autre. Et ils ont fait une enquête qui passait par toutes ces compagnies. Et il y a une alerte qui a été c'était simplement un avertissement. C'est que voilà ce qui se passe. Et si vous ne faites pas quelque chose, on va simplement prendre, on va vous poursuivre en justice. Et en fait, ces lettres en Amérique latine sont ridiculisées parce qu'il n'y a pas vraiment de possibilité pour une société aux États-Unis, par exemple, pour agir dans un pays qui est protégé par ses propres lois. Donc ça, c'est dans le cadre de l'accord qui est en cours. Et ces agences ont commencé à envoyer des lettres qui disaient, s'il vous plaît, soyez, ayez l'amabilité de, avant de dire, on vous donne l'instruction de faire ceci, cela. Ce qui était impossible parce qu'ils avaient une relation contractuelle à respecter, à protéger, même si il n'y a pas de validation en raison du nom Mickey Mouse. Mais il y avait également une deuxième ligne de commandement, c'est que la police devait envoyer le code pays. Cette fluidité qui a été découverte au fil de l'année nous a permis de remplir... d'agir ensemble. Et enfin, en Amérique latine, on est en train de préparer une série de manuels que nous serons heureux de vous fournir. Si ce dialogue ne se fait pas, quoi faire? Donc, le deuxième point, c'est que le code pays dépend des lois nationales qui, actuellement, en Amérique latine, sont... Donc, je recherche le développement, l'élaboration de CERT et où ces codes pays sont affectés et pour la protection des données personnelles. C'est une situation qu'on a dans la région et nous travaillons ensemble et nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et la seule chose, c'était la formation réciproque et la compréhension et c'est qu'on travaille ensemble contre le même ennemi. Rob, merci. Donc, une présentation rapide de OCERT. C'est un organe à but non lucratif à l'Université de à l'Université du Queensland, financé par des contributions des membres. Et ainsi que par, nous avons également un revenu pour certains projets gouvernementaux. Et nous avons une conférence annuelle. Nous essayons d'aller au-delà de nos membres, de l'intérêt de nos membres, et de nous intéresser au bien de tous les internautes, si c'est possible. Nous pensons que nous pouvons permettre d'accroître la sécurité de l'Internet en Australie. Et c'est énorme, et rendre l'Australie non conviviale envers les criminels de cybernétique. Nous n'avons pas de rôle de police, mais nous réagissons aux incidents de façon fréquente. Et on le fait si on nous le demande très gentiment, comme Eric l'a fait. Et nous nous appuyons également sur le fait que la plupart des prestataires d'hébergement et d'infrastructures ne veulent pas d'activités malveillantes dans leur infrastructure. Et nous les alertons dans ce fait, et donc nous cherchons à les former là-dessus, à les informer. Donc, en ce qui concerne la question de WHOIS qui a été abordée ici, pour nous, c'est très important. Très utile pour notre réaction aux incidents. Je vais vous donner un exemple. C'est lorsqu'un attaque compromet l'intégrité d'un site Internet et remplace le contenu par leur propre contenu, que ce soit des messages politiques ou même du piratage ou quelque chose de ce genre. En fait, on va... contacter les FAI et leur façon de traiter la chose peut être traitée différente d'un FAI à l'autre, que ça peut prendre plusieurs jours pour arriver à mais avec ces données, nous pouvons aller de l'un à l'autre, ce qui peut prendre plusieurs jours. et nous pouvons leur les informer du fait que leur site internet a été fragilisé et souvent ils y affectent une priorité élevée, ils en font une question prioritaire et on peut atténuer les effets de l'incident très rapidement. En ce qui concerne les utilisations abusives des DNS du genre dont on traite ici, nous avons déjà eu beaucoup de discussions sur la question de l'hameçonnage et c'est souvent où les DNS sont souvent les noms de domaine, plutôt les noms de domaine sont enregistrés. On a déjà parlé de l'hameçonnage. Et pour que les bureaux d'enregistrement les bloquent, les suppriment, ça, parfois c'est facile. Voilà, ça c'est le site internet qui est légitime. Celui-là, c'est l'imitation. Et donc, il y a infraction, il y a violation des droits de la propriété intellectuelle. Et veuillez le retirer, la circulation. Et donc ça, c'est assez facile. Ce qui est moins facile, et Steve en a parlé, c'est l'aspect des mules qui sont recrutées pour faire partie de la chaîne de blanchiment d'argent lorsque des comptes en banque sont compromis, et surtout à l'étranger. Et pour nous, c'est souvent difficile de montrer à un bureau d'enregistrement, et il peut être sceptique pour dire pourquoi il va dire ce site pour cette compagnie pourrait être parfaitement légitime, mais il faudrait que je les supprime simplement sur ce que vous me dites. Donc, ce que nous avons pu faire jusqu'à présent, c'est nous appuyer sur nos collègues ou nos amis au sein de la police fédérale australienne, et nous avons trop de mal à convaincre les bureaux d'enregistrement. Tant les hameçonnages que les mules sont hébergés sur l'infrastructure FastFlux, et ce qui fait qu'il peut y avoir une rotation des noms de domaine très, très, très rapidement. Et il est bon de voir que ICANN s'intéresse récemment et a fait de la recherche sur ces questions de FastFlux, et nous espérons qu'il y aura de bons résultats comme résultat. Mais il y a une autre question qui est plus troublante, plus insidieuse dans le cadre des questions financières par des logiciels malveillants. C'est là où des domaines sont enregistrés et on les voit, enfin, ils se mettent à distribuer des logiciels malveillants du genre Configure et des domaines qui recueillent des informations personnelles fragiles. Et une fois que ce logiciel malveillant a votre mot de passe, il l'envoie à un de ces domaines qui va le noter. Et souvent, ces situations sont très difficiles. Il est très difficile de convaincre les bureaux d'enregistrement de ces situations. Et donc, voilà, ça, c'est un défi constant pour nous. Et souvent, c'est un problème plus grave que l'hameçonnage parce que c'est plus qu'une question de nom d'utilisateur. Et pour des comptes en banque, ça peut être toutes sortes de choses, mots de passe menant à d'autres sites Internet. En ce qui concerne, il y a également des incidents où il y a des attaques d'amplification, de déni de service par le biais de serveurs de DNS, mais je ne vais pas en parler maintenant puisqu'on n'a pas beaucoup le temps. Je peux le faire après. Il y a également des attaques de type empoisonnement sur les DNS. On en voit peu, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont rares ou qu'elles ne sont. En fait, elles peuvent survenir, mais on ne les décèle pas. Où le prestateur peut également régler l'incident sans le dire. voilà les cas d'abus des DNS qu'on a vus. Et je dois dire que ce code pays, donc sur cette discussion de code pays, je vais peut-être vous dire, parler d'un incident qui me paraît être une réussite avec des affiliés du genre .info.biz et de leur réponse, de leur réaction. On a vu en 2006 et 2007 un ciblage particulier de .hk Hong Kong, du domaine de Hong Kong. Et pendant ces années-là, on a vu, on a connu 56, 81 noms de domaines enregistrés pour ce but, 80 en 2007. Et ainsi que soit pour des questions d'hameçonnage ou de cheval de chevaux, cheval de Troie, de mules ou autres aspects, donc où il s'agit de prendre le contrôle d'un site de façon à en noter les informations. La question, donc le DNR de Hong Kong a commencé à coopérer avec nous et le nombre d'incidents a chuté de façon notable. En 2008, il y en avait 3. En 2009, il n'y a que 2. Donc, c'est vraiment une réussite et je pense que ça n'est pas, on ne le fait pas savoir aussi largement qu'on pourrait. Donc, j'ai voulu vous en parler. Donc, dans les TLD des codes pays, donc peut-être que vous pouvez vous rapprocher d'un partenaire, genre CERT, de façon à ce qu'ils fassent leur enquête sur des incidents, de façon à ce que vous sachiez, de façon sûre, que vous n'allez pas de retirer un site tout à fait légitime. Chris?
Je voulais juste dire quelques mots sur la suspension de domaine. Les registres, les bureaux d'enregistrement ne peuvent pas le faire. Ce sont les ISP qui peuvent le faire, en Australie en tout cas. Les bureaux, la seule chose que les bureaux d'enregistrement puissent faire, c'est de supprimer le nom de domaine ou arrêter les serveurs de nom. C'est juste une question de termes. Je veux juste clarifier les termes. Il y a des choses que nous pouvons faire, mais suspendre un site, c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas, plutôt que la suppression du nom de domaine. Merci de cette clarification, mais en fait, je parle vraiment de la suppression de nom de domaine dans le cas des fast-flux ou dans le cas des domaines qui ont été spécifiquement enregistrés pour attaquer à des fins criminelles. Donc oui, je parlais de suppression. Je vous remercie de cette clarification, mesdames et messieurs. Je me demande s'il y a des questions en ce qui concerne spécifiquement les questions des CCTLD et la sécurité, oui? Non? Y a-t-il des questions? Tout a été parfaitement clair. Il me semble que l'on pourrait avoir, pour que certains CC partagent leur expérience à l'avenir. Chris, peut-être avec votre président du CCDSO, peut-être que votre regroupement, votre collège pourrait peut-être faire cela avant Séoul. Et vous devez me poser une question. Et maintenant... Et maintenant, Bertrand va se lever pour poser une question. Je ne sais pas exactement ce que vous me demandez de faire. D'après ce que j'ai entendu ici, il y a un besoin de partage d'expérience pour la coopération. Et serait-il possible d'essayer de voir à Séoul, par exemple, où on peut partager les bonnes pratiques et les moins bonnes pratiques au niveau des CC? Pas pour la réunion, mais pour l'organisation. Les CCTLD, les GTLD travaillent très dur ensemble pour faire en sorte de former au niveau sécurité, au niveau technique, et on collabore également pour faire mobiliser nos CCTLD dans ces questions, à travailler dans ces questions. Mais peut-être ce serait une bonne idée d'avoir cela lors d'une réunion des CCNSO. Et il faut également une approche plus focalisée, peut-être. Michael. J'ai juste deux points à mentionner. Michael a parlé de ce protocole d'accord, de ce concept de protocole d'accord. On en a un peu parlé également dans d'autres réunions. Une question me vient à l'esprit. Comment est-ce que cela affectera la relation entre les bureaux d'enregistrement et les registres et les registrants? C'est très bien dans le cas d'un opérateur de registre qui n'a pas de bureau d'enregistrement formel, car le registrant a un contrat direct avec le registre, mais vous impliquez que vous changez en fait une partie du contrat, car si vous introduisez un protocole d'accord, cela va affecter les domaines existants. Et si vous le faites dans une situation dans laquelle il y a aussi bien des bureaux d'enregistrement et un accès direct avec un registre de dernier ressort, comment est-ce que vous allez traiter cette situation? Je pense que je ne vais pas être la seule personne à pouvoir répondre à cette question. Le protocole d'accord devra être neutre au niveau technologique. On ne parle pas simplement des données de WHOIS, même si ça en fait partie. On n'insiste pas non plus dans ce concept sur le fait qu'un bureau d'enregistrement, sur ce qu'obtient un bureau d'enregistrement dans nos registres, nous sommes un très petit thick registre. Et nous avons des données sur tous les bureaux, sur tous les enregistrements. Et il y a des considérations contractuelles. Et elles sont à votre disposition à www.channel. Et nous avons une situation dans laquelle nous essayons de mentionner une façon légales dans lesquelles on peut transférer les données entre, par exemple, à partir du Royaume-Uni, si vous êtes au Royaume-Uni ou d'un autre pays de l'Union européenne. Il y a des législations de divulgation des informations licites. C'est un niveau très élevé. Est-ce que ça répond à votre question? On avance très lentement. Je pense qu'il faut en discuter. C'est pour ça que j'ai soulevé le problème. De mon point de vue, en tant que fournisseur d'hébergement et de bureau d'enregistrement, il faut équilibrer ces données avec le respect de la vie privée, parce qu'on pourrait être dans une situation dans laquelle, dans les cas de l'infraction à la propriété intellectuelle, où est-ce qu'on établit la limite? Par exemple, l'équivalent de RIA essaye de voir un ISP et d'héberger les... Et donc, il est important d'avoir une démarcation très claire entre les notions d'utilisation abusive, entre ce qui est criminel et ce qui ne l'est pas. Le concept est sur l'organe capacitant, l'organe qui habilitant. Le concept est un modèle qui peut être adopté par les bureaux d'enregistrement. Ça peut être un modèle minime ou ça peut rentrer dans un contrat. Ce sont des concepts à haut niveau qui ne sont pas très développés, pas très élaborés pour le moment. Chris. Je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas compris. Premièrement, il me semble que dans le cas des GTLD ou même des CCTLD, dans la plupart des CCTLD, il y a un nexus légal entre un point commun légal entre les CCTLD et le client, parce que on pourrait passer par les bureaux d'enregistrement et les registrants, mais cela voudrait dire que ce sont les bureaux d'enregistrement qui ont les droits. Ça ne marcherait pas. Donc, à partir de là, on peut dire que la base à partir de laquelle on révélerait votre information, on divulguerait votre information, je n'aimerais pas beaucoup savoir si en Australie, les bureaux d'enregistrement étaient dans cette position, parce qu'il n'y a pas de pratique standard. Il y a différents niveaux pour traiter avec les différentes autorités. Donc, c'est à nous de faire cela. Et ce que vous venez de dire, j'accepte ce que vous voulez dire, mais le problème, c'est de trouver des preuves, et cela nécessite beaucoup de temps. Donc, ce que l'on dit, c'est qui êtes-vous ? Est-ce qu'on sait qui vous êtes ? Dans le cas, par exemple, de certains de nos autorités, il y a une personne désignée ou des personnes désignées qui peuvent nous contacter et qui peuvent nous demander des informations. Et ils doivent nous fournir une confirmation qu'ils enquêtent sur quelque chose. Donc, on ne veut pas qu'ils recherchent, qu'ils aient accès à cette base de données sans justification. Bertrand, avant tout, je remercie au panel de cette pour faire part de ces expériences très intéressantes. Quand on parle de CCTLD et quand on parle de l'application des lois, on part du principe qu'il y a des lois. Et quand on travaille dans les CCTLD, même si les activités couvrent bien sûr le reste du monde, il y a une coopération étroite entre la définition du corps législatif des lois au niveau national pour établir l'équilibre que les communautés locales ont décidé de placer sur les règles appliquées en cas de rupture ou d'utilisation à mauvais escient. Je mentionne cela parce que quand on discute de cela au niveau mondial, pour les GTLD en particulier, et je le mentionne en tant que représentant du GAC parce que c'est une idée qui a été discutée ce matin. Dans le cas des discussions sur WHOIS, par exemple, pour les nouveaux GTLD, le Thick WHOIS, le Thin WHOIS, il est difficile pour un représentant du GAC qui couvre toutes les questions de l'ICANN d'avoir une connaissance globale. Donc, il faut parler aux organismes d'application des lois, aux protecteurs des vies privées, des données privées. Donc, en ce qui concerne le processus, qu'est-ce qui est fait au niveau national, parce que tous les acteurs collaborent sur une politique et c'est difficile de le faire au niveau de l'ICANN parce que le format ne fait pas intervenir ces acteurs. Donc si on a aussi une approche basée sur les questions sur WHOIS, on peut probablement le faire. Il y a probablement au niveau de l'ICANN des mécanismes qui ne forcent pas les organismes d'application des lois à venir aux réunions de l'ICANN, mais en fait, on peut les inciter à avoir des relations entre nos réunions et les encourager à travailler sur ces politiques. Et enfin, ce qu'il me semble très intéressant avec l'espace des CCTLD, c'est qu'on peut y voir qu'il peut y avoir une grande diversité de régimes dans une même catégorie. Il y a beaucoup de politiques en ce qui concerne l'enregistrement, la protection des données, les mécanismes de mise en application des lois. Cependant, le système, dans son ensemble, ne fonctionne pas si mal. Donc, On peut donc avoir une diversité de régimes qui sont adaptés, qui peuvent être adaptés aux comportements locaux et nationaux. Eric ?
Donc, sur la première remarque, la question pour les CCTLDR en Amérique latine est peut-être ailleurs. Et ce n'est pas la question de contrat ou non dans la relation et avec les lois nationales qui est à la base du contrat, donc pour donner quelque chose à quelqu'un. Et si ce contrat affecte le registre, les registrants et le bureau d'enregistrement, ça veut dire que vous êtes en contact avec les tribunaux ou une loi quelconque du pays. Donc, en fait, qu'est-ce que vous donnez ? On propose un bien ou un service et on peut avoir des droits de titulaire, de propriétaire pour les responsables de domaine. C'est une discussion intéressante parce que c'est intéressant. Mais pour beaucoup de CCTLD, la discussion veut dire, ça veut dire c'est que j'offre un service, uniquement le service. Et le nom de domaine, ce n'est pas une chose, c'est quelque chose. D'un point de vue légal, nos juristes, les juristes, nous rendons les choses plus confuses. Oui, je suis juriste, mais moi, je suis un des gens de bien, parce que nous rendons les choses difficiles, parce que nous ne clarifions pas ce que c'est qu'un nom de domaine. Et c'est une relation contractuelle. C'est qu'on donne quelque chose qui était là, qui est le registrant. Mais si c'est un service, on peut avoir des clauses relatives à l'usage abusif. Et donc, c'est une différence qui peut être intégrée dans le contrat. Les GR, personne n'a commencé cette discussion. Chris, alors, ne nous faites pas attendre comme ça, c'est cruel. Ça m'a semblé assez curieux qu'il y avait des gens de CCTL là qui étaient en train de parler de contrat. Merci Chris. Donc, nous allons remercier. Donc, veuillez remercier avec moi les membres du panel tout à fait excellents qui vient de nous adresser la parole. Pendant que nous changeons, vous n'aurez pas de pause, vous aurez simplement à souffrir comme nous tous. Et on va passer maintenant à la protection des consommateurs dans le cas d'usage abusif des DNS. Et certains sont obligés de partir, donc je voudrais remercier tous ceux qui sont là alors qu'ils s'en ont. Donc les membres de panel sont les suivants. C'est vraiment, ce bouton me dérange beaucoup. Alors, il va y avoir une description dont les abus malveillants affectent les consommateurs et les enjeux pour ceux qui veulent les protéger. Et les contraintes, ainsi que l'absence de, enfin les données, des données inexactes dans WHOIS et l'absence d'informations de coordonnées de contact pour les bureaux d'enregistrement. Et nous avons donc, est-ce que nous avons tous nos intervenants? Merci, mesdames et messieurs. Très bien. Nous avons Holly Raich, qui est directeur de la Société Internet d'Australie, qui n'est pas uniquement ici comme c'est une façon d'essayer d'égaliser la proportion homme-femme au sein de nos panels. Et elle est également avec Beau Brenner, membre d'ALAC. Et elle fait partie d'un réseau de défense des consommateurs au niveau financé financée au niveau fédéral qui va commencer au 1er juillet pour les besoins de tous les Australiens, les consommateurs de communication. Nous avons grand plaisir à avoir sa participation aujourd'hui. Et nous sommes également ravis d'annoncer que Mr. Alan H. Nous avons également Bob Brandler, qui est d'un site Internet de surveillance pour l'Union des consommateurs des États-Unis et qui a passé plus de 10 ans à défendre les consommateurs et à créer des principes souvent adoptés pour améliorer la confiance et la crédibilité accordée au site Internet. Et il est souvent cité parce que nous l'aimons beaucoup. Et vous, messieurs, nous avons Dave Piscitello, qui est expert technique pour ICANN. Et il est reconnu dans ce domaine en relatif à l'accès à haut débit et à la sécurité. D'un point de vue du consommateur, il a fait de nombreuses réunions d'information pour nous. Et c'est vraiment quelqu'un qui sait bien rendre les choses compliquées, de les rendre simples. Et enfin, nous avons Mason Cole, qui est vice-président des communications pour overseas.net et gère également les relations et les relations publiques de la société pour Snap Names. Madame, messieurs, allons-y. Je ne sais pas en fait quels sont les diapos qui vont s'afficher. Ou alors, est-ce que c'est un truc ou un machin? Ben, si ça marche, hein. Très bien, merci. Très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je vais le faire très vite. Quatre sujets. D'abord, comme Cheryl l'a dit, la première, ce sont quelles sont les véritables menaces, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Les menaces, déjà, on va parler des canulars. On pensait avoir acheté quelque chose, mais 3000 autres personnes l'ont également acheté et vous aurez du mal, comme vous avez perdu de l'argent. Autre menace dont on en a parlé l'après-midi, je me suis rendu compte tout d'un coup qu'il y a deux personnes qui tapent à toute allure. Est-ce que l'usurpation d'identité? Et ça veut dire que quelqu'un peut détourner suffisamment de vos informations pour vous représenter. Et en fait, et ils peuvent disposer ainsi de vos biens, de votre argent. Troisième menace, c'est la question de logiciels malveillants, de réseaux, de robots. En Australie, il y a eu le cas récent. Où il y avait une liste noire mise au point par l'autorité de tutelle et très peu de temps après, il y a eu une fuite et un dentiste s'est rendu compte que son site internet était sur cette liste et que elle était donc sur une liste noire. Et le gouvernement a dû s'expliquer en disant votre identité a été usurpée. C'était pas seulement son identité qui a été usurpée, c'était tout son cabinet. Donc, c'est une menace d'un point de vue utilisateur. Les enjeux, les défis d'un point de vue du consommateur, premièrement, c'est qu'ils ne comprennent pas les menaces. Un exemple que je donne souvent, non, weebing.isoc.eu, il y a eu en Australie occidentale, il y avait beaucoup de personnes dans l'audience, dans l'omnium, et le temps de déchargement est de 3 secondes, ce qui est le plus long de l'OCDE. Donc, si vous êtes une personne âgée et que vous avez un revenu qui est limité à une retraite et que Microsoft envoie une correction et vous savez que ça va utiliser toute votre quantité pour le mois, donc ils n'ont pas la sécurité, ils ne comprennent pas le problème non plus. Deuxièmement, si on ne sait pas et on ne s'y intéresse pas. Ça, c'est un problème de la génération la plus jeune. De 4 ans à 45 ans, c'est là où on met des informations sur Facebook ou ailleurs sans se rendre compte ou sans se soucier du fait que ces informations sont publiées et vous concernent. Une personne me disait récemment, il y a un programme là qui met 2 minutes et qui en 2 minutes donne suffisamment d'informations sur les gens et comme ça ils sont capables de fournir toutes les données d'identité suffisantes pour ouvrir un compte en banque et les gens ne s'en soucient pas. Et non plus, la troisième chose, c'est que les gens ne savent pas où s'adresser quand il y a un problème. Beau et moi, on était à Mexico. Il y avait un thème pour les consommateurs, c'est où aller pour commencer à résoudre les choses. Et Craig II a dit dans un autre panel qu'il y a un lien de sécurité électronique où on a regardé qu'est-ce qui va se... Quels seront les problèmes à l'horizon ? Et un des problèmes que tout le monde a soulevé, c'est que personne ne sait qu'il y a un point pour obtenir des informations ou s'il y a une référence ou est-ce qu'on va à ICANN, est-ce qu'on va au médiateur, est-ce qu'on va au bureau d'enregistrement ou à FAI. Donc, où vont les consommateurs quand ils ont un problème à régler? Ensuite, ce qu'il existe comme modalité en place, tout d'abord avec l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement et ces modifications. Certaines d'entre elles, selon moi, sont très bonnes. Il y a maintenant les revendeurs, il y a des revendeurs qui ont été pris. Ce n'est pas le cas, maintenant c'est bien. On a réaffirmé la préférence pour l'utilisation de bureaux d'enregistrement accrédités et ICANN a maintenant de nouveaux pouvoirs qui lui permettent de suspendre s'il y a une infraction fondamentale et notable. Et c'est moi en tant que juriste. Ces mots n'ont pas été définis et donc je commence à réfléchir à ces termes de fondamental et notable. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Il y a une autre question, c'est les données si ces données de rouille sont justes. Une des questions, c'est pourquoi est-ce que ces données sont suffisamment importantes pour que nous nous inquiétons de sa justesse. Et je pense que c'était un bureau d'enregistrement, c'est une bonne question. Il y avait des personnes d'ICANN qui en répondent quelque chose comme je vais me tourner vers mon client. Et il m'a semblé que cette réponse n'était pas suffisante. Il faut comprendre pourquoi c'est important. Donc, comme je suis tout à fait timide, j'ai quand même fait l'effort d'ouvrir et j'ai dit que c'était nécessaire pour faire le suivi de problèmes pour les utilisateurs commerciaux. Et peut-être être intéressant de savoir contacter quelqu'un qui a un nom. Mais s'il y a un litige sur un nom, On est en train d'en débattre. Les gens ont besoin de savoir qui le détient et quand il a été enregistré et quand il a été renouvelé. Donc, ces données ont de nombreuses utilisations, certaines étant importantes. Et j'aurais voulu que quelqu'un indique une réponse. Il y a une autre question, c'est la question des données relatives à la vie privée ou la vie privée. Il y a toutes sortes de régimes législatifs là-dessus. C'est un équilibre entre le droit de l'individu à une vie privée et la justesse des données du WHOIS. Je ne sais pas où on doit faire la limite, mais c'est une chose sur laquelle il faut travailler. Autre problème qui vient de Mexico, qui est toujours en cours, c'est la cohérence des réglementations. Si on va afficher des données pour les consommateurs, pour les bureaux d'enregistrement, il faut que ça soit une information qui soit cohérente. Mais il y a différentes règles pour les GTLD. Il y a d'autres règles en cours d'élaboration pour les nouveaux GTLD et d'autres encore pour les CCTLD. C'est vraiment, ça prête à confusion lorsqu'on ne connaît pas toutes ces différentes. Et en particulier lorsqu'il y a 3 sigles et on doit savoir ce que chacun d'entre eux veut dire. Au niveau des solutions maintenant, premièrement, il nous faudrait un code de conduite. Pour ceux qui ont lu l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement, c'est mentionné dans cet accord et qu'il n'existe pas encore. Ça, c'est la clause 3.7 pour les juristes. Je voudrais qu'on en mette un au point avec les bureaux d'enregistrement et que l'on discute de des choses à faire. Et il y aurait également les registres 038 qui diraient bon, c'est la meilleure façon d'agir. Point suivant, c'est quelque chose qui a été soulevé à Mexico et on en a parlé avec Beau. C'est une méthode pour traiter rapidement des noms de domaines associés à des activités criminelles. Je me comprends bien qu'il y a des règles qui encadre les CCTLD, GTLD, mais pour arrêter ces activités, c'est ce qu'il faut et il faut rapidement. Et enfin, autre solution, c'est qu'il y ait un seul portail où l'ensemble des consommateurs puissent trouver des informations par rapport à leurs droits, à leurs obligations vis-à-vis des bureaux d'enregistrement, comment résoudre les questions difficiles. Autre problème, je vais le dire, même si Dave est présent, et si présent, il y a un travail à faire sur le respect des obligations. Il y a beaucoup de choses dans l'accord d'accréditation des bureaux d'enregistrement qui, selon moi, ne sont pas appliquées. Voilà, c'est tout ce que je vais dire pour l'instant sur ce point. Oui, je serai sortie à 18h, donc... quelque chose d'autre que je voudrais dire. Je pense que c'est le premier Greg ou le deuxième Greg qui l'a dit. En Australie, l'association du secteur Internet, mais bon, je dois le dire avec regret, mais a mis en œuvre un groupe de travail dont nous faisons pour mettre en place un code de conduite pour aider les consommateurs individuels au cas où leur ordinateur a été affecté et pour comprendre et savoir quoi faire. C'est une idée. Le groupe de travail n'est pas encore formé, donc il est trop tôt, mais c'est peut-être un autre élément qui pourrait servir dans la lutte contre les abus vis-à-vis des DNS. Et nous allons passer tout de suite à Beau. Veuillez avancer vos diapos. Voilà, parce que voilà, c'est bon. Vous avez vos diapositives.
Et cette présentation va s'inspirer un peu de la recherche qui a été faite par certains membres de At Large, notamment Kun Jung, que vous connaissez. Il fait partie de la structure At Large de Amérique du Nord. en ce qui concerne l'utilisation abusive des DNS. Les diapositives sont assez denses. Je vous renvoie au site. Mais il y a des informations intéressantes sur ces diapositives, mais plus spécifiquement, je pense qu'il est bon de noter que ce rapport a été produit par une structure at large au sein de la LAC et que ce groupe de personnes, en plus de ce que j'ai déjà mentionné, commence à vraiment prendre un rôle très important et à faire des enquêtes, des recherches en ce qui concerne les questions d'utilisation abusive des DNS et autres questions liées aux consommateurs. Sur cette diapositive, il y a un certain nombre de problèmes qui sont mentionnés en ce qui concerne .cn. Je ne sais pas si il y a des gens de .cn, ainsi que les noms de domaines chinois ont été très souvent cités comme utilisant des produits pharmaceutiques non autorisés. Donc, ici, je ne vais pas lire cette diapositive. Vous avez là encore le lien URL, mais il y a un certain nombre les problèmes de CCTL et LD. Et par exemple, .nu, a été utilisé pour des sites de pornographiques. Et vous avez aussi. Est-ce que vous êtes ici, Monsieur Semich, du point hier, le gouvernement Iran a aussi le réseau russe, le réseau des affaires russes. Donc, je ne sais pas quelle influence ils ont dans l'espace CCTLD, mais John s'en occupe. .ve. On en a parlé pour le Venezuela avec le domaine et l'arme très affecté par les hameçonnages. Donc voilà pour les problèmes. Nous avons adapté une grille ici qui mentionne les matrices d'évaluation des problèmes. Peut-être pas pour éduquer les consommateurs eux-mêmes, mais les groupes de défense des consommateurs. Donc, ces matrices peuvent être adaptées. Et si un domaine a une partie responsable, le public publie et un enregistrement fermé, c'est probablement acceptable. Le public is quand il n'y a pas d'enregistrement ouvert, la situation est encore pire. Et les domaines mentionnés sur la diapositive précédente arrivent dans la dernière catégorie ici. Donc voilà les changements possibles proposés dans le cadre du RAA. Nous avons essayé au cours des dernières années de demander des détails pour les enregistrements et les revendeurs. Il y a une disposition ici. Donc, l'exactitude des données de WHOIS, il y a une étude en cours à ce sujet et dont les résultats seront, nous l'espérons, positifs pour les consommateurs. Et les résultats du GAO, les résultats estimés qu'il y avait un certain nombre de domaines qui avaient des données fausses. En ce qui concerne la relation entre les bureaux d'enregistrement et les revendeurs au sein du RAA, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les revendeurs. Et il ne semble pas qu'il y en ait beaucoup, en tout cas du côté à large. Donc, il nous faut avoir plus d'informations sur les revendeurs et leur système. Les défis en ce qui concerne l'éducation des consommateurs, on a un peu tendance à dire que ce n'est pas du domaine d'activité de l'ICANN, les consommateurs, il faut dire telle et telle chose aux consommateurs. Et tout ça, c'est vrai, mais j'ai un peu d'expérience dans ce domaine et l'éducation aux consommateurs prend beaucoup de temps et c'est coûteux. Et les défis sont de plus en plus, c'est le plus important au fur et à mesure qu'augmente la complexité des messages. Il y a beaucoup d'informations. Les consommateurs consomment de plus en plus les dispositifs non génératifs. Par exemple, les PC. Il y a de nouveaux problèmes, comme par exemple les dispositifs de ce type. Il y a des restrictions en ressources. Les gens ne voient que une partie du problème plutôt que l'ensemble du problème. Et il y a de plus en plus de notions de protection des droits, de respect de la vie privée et les droits en ce qui concerne la responsabilisation. Donc, on voudrait avoir plus d'informations sur qui fait quoi dans la communauté en ce qui concerne Whois. Je ne sais pas on connaît très bien ces situations, qui fait les études et quels sont les résultats et quels sont les champs d'application et la portée de ces études. Je vais passer sur cette dernière diapositive car je l'ai déjà utilisée hier et nous sommes à court de temps. Donc, est-ce qu'on veut voir que les consommateurs évitent de faire des activités commerciales avec des entités enregistrées par un mandataire? Est-ce que nous voulons voir que les consommateurs commencent à faire d'avoir des relations commerciales avec les entités dans certains pays? Est-ce que nous voulons voir que les consommateurs évitent d'avoir des activités commerciales sur l'Internet? Là, la réponse est non. Mais dernière tendance montre au niveau, au moins aux États-Unis, que 30% ou plus de la population commence à craindre l'Internet et diminue leur utilisation de l'Internet. Et nous sommes à court de temps, donc je vais passer la parole. Passer le gadget à mon collègue. Est-ce que il faut le tenir tout le temps? C'est assez cruel et c'est pour vous obliger à être bref. Cet appareil ne s'éteint pas. Nous avons un certain nombre d'appareils ici. Et maintenant, c'est moi la prochaine victime de ces appareils. Ça faisait partie de mon plan. Il ne faut pas jamais parler les représentants des consommateurs et les représentants du personnel technique à une même table parce qu'ils commencent à parler, etc. Ce n'est pas pire qu'un autre environnement ergonomique que j'occupe. Donc, ça va. Je m'appelle Dave Piscitello et je viens de l'ICANN. Et cette intervention, je parle au nom de mon comité consultatif et je voudrais commencer en vous donnant une image un peu de la façon dont les domaines donc je vais commencer un peu plus tôt. C'est un petit peu difficile à lire en haut à droite ou à gauche. Vous avez l'âme sonneur qui a déjà trouvé un site d'hébergement et a téléchargé son matériel, c'est-à-dire une page Internet qui va permettre de saisir votre carte de crédit, également
ça va, ils vont ensuite enregistrer un domaine, comme ça vous pouvez cliquer sur l'URL comme si c'était une adresse, parce qu'au bout de 10 ans, ils se rendent compte que ces adresses IP ne sont pas fantastiques. Donc, après, en une heure, il a créé son site, il a enregistré son domaine et il envoie son mail d'hameçonnage. Pendant cette première heure, les gens commencent à cliquer l'URL et à se rendre sur le site très vite. Pendant cette première heure, une heure et demie, certains prestataires de services anti-hameçonnage ou autres sont alertés et se rendent compte qu'il y a donc un mail d'hameçonnage et veut interrompre la chose. Il veut donc bloquer ou suspendre le site et le domaine. Que fait-il ? Il faut qu'il contacte quelqu'un qui connaît cet enregistrement de domaine. Et c'est là vraiment ce qui est derrière ma présentation. L'information la plus importante, c'est de trouver le bureau d'enregistrement qui mandate. C'est lui qui va vraiment aider à obtenir cette suspension de domaine. Une question importante, c'est comment trouver les informations pour contacter, les coordonnées pour contacter ce bureau d'enregistrement. Et vais-je trouver quelqu'un qui traite de ces enquêtes pour les cas abusifs? Donc, première question. D'abord, où trouver des informations relatives au bureau d'enregistrement mandaté? Bon, vous pouvez vous rendre sur le site Internet du bureau d'enregistrement. Vous pouvez voir la liste des coordonnées de bureau d'enregistrement qui est publiée donc, par ICANN. Et ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Vous pouvez demander à un collègue. Souvent, il y a des listes de diffusion qui participent. On ne cesse d'aider les gens qui cherchent des points de contact parmi les bureaux d'enregistrement et nous diffusons cette information. Chaque fois, donc, ce qui est important, c'est le temps. Chaque fois que j'ai du retard à trouver le point de contact, l'attaque dure plus longtemps, en minutes, en heures, ça dépend si c'est difficile de trouver cette information ou non. Lorsque vous avez cette information, vous appelez ou vous envoyez un mail. Souvent, vous appelez pour demander bon, que pouvez-vous faire. Et ça dépend des informations que vous avez obtenues. Et les informations obtenues, c'est de nombreux bureaux d'enregistrement donnent leur point de leurs coordonnées de contact. Mais souvent, elles sont fausses, incomplètes, elles ne sont pas disponibles toute la journée ou elles n'ont pas la capacité de traiter des réclamations relatives à des questions d'usage abusif ou quelqu'un, un tel qui le fait n'est pas là, il est parti en vacances ou je veux pas faire trop d'humour, mais vous, en général, c'est pas la même personne que si c'est la fonction de traiter de ces questions et de suspendre. Et il y a, dans les bureaux d'enregistrement, il y a souvent quelqu'un de très bien qui fait ça, donc je ne veux pas noircir la situation. Mais parfois, vous tombez sur quelqu'un qui ne sait pas à qui passer votre appel. Donc, tout simplement, ce sont des retards qui augmentent la durée d'une attaque. Il y a toujours une résolution et il y a des gens qui sont victimes, que ce soit par des usages abusifs de sites pharmaceutiques. Je voulais expliquer véritablement si la situation est bonne ou non. Et je me suis souvenu d'une présentation qui a été donnée. Je n'ai pas pu la retrouver, mais en fait, c'est leur coordonnée de contact que j'aurais dû prendre. Mais ce que j'ai fait, j'avais été visiter des sites Internet de bureaux d'enregistrement et j'ai cherché le point de contact pour les abus. J'ai visité 129 n'avaient pas de point de contact. Certains étaient en langue étrangère. Je ne comprends pas bien le chinois ou l'arabe. sur les sites que j'ai visités, donc 172 sur les 229 n'avaient pas de point de contact. 25%, soit 57 sites, avaient un peu d'informations et 8 avaient un faux point de contact, TRUIS. Quand on pense qu'on a 900 bureaux d'enregistrement, c'est pas exact. Et souvent, ils sont partenaires les uns avec les autres. Donc, j'ai voulu réduire la liste et voir si les choses s'amélioraient. Au lieu de 75% qui n'avaient pas de point de contact, il s'est passé à 79%. Au lieu de 25% qui avaient des informations, il y en avait 21%. Et en fait, il est tout à fait possible de changer ces chiffres de façon extraordinaire avec des affiliations en disant « je vais le faire ». En fait, je vais vous dire trois qui pourraient passer ce chiffre à 50%. Parfois, il y a de la résistance. Je comprends bien que le marché du bureau d'enregistrement est à la fois petit et concurrentiel. Il y a une véritable incitation là pour les bureaux d'enregistrement pour montrer qu'ils coopèrent avec les lois. Et c'est le message que je voudrais passer à ces bureaux d'enregistrement sans point de contact. Le temps de réaction idéal à ces attaques d'hameçonnage se mesure en heures. Et donc, si vous donnez un coup de main là avec les bonnes informations, on peut vraiment réduire les délais et les effets nuisibles. Il y avait un rapport ESSAC qui est sur son site. Je vous donnerai l'URL si vous le souhaitez. Et la recommandation est assez simple. C'est-à-dire que nous avons demandé qu'ils donnent un point de contact pour les usages abusifs, mais pas seulement un contact, mais quelqu'un qui soit efficace, qui réagisse et qui soit capable de donner à celui qui dépose sa plainte un système de suivi avec un numéro, une référence, qui êtes-vous, où en êtes-vous des bureaux d'enregistrement qui publient des informations, des coordonnées, tant pour l'ICANN que pour leur propre contact intérieur. Ça serait très intéressant d'avoir ces informations. Ce n'est pas vraiment magique ou difficile, mais l'information doit être cohérente par rapport à d'autres notes, parce que beaucoup de ces usages abusifs et ce suivi sont faits automatiquement. Et donc, si vous pouvez, ça peut être dans une forme facile, donc où ça peut être facile à retrouver, ça serait très bien. Il serait bien également si ICANN pouvait de temps à autre vérifier la justesse des informations. Voilà, c'est tout. Merci.
Je vous remercie, Dave. Holly doit partir parce qu'elle s'occupe d'une réception ce soir. Donc, on lui pardonne de partir. On va quand même l'applaudir, un peu pour la gêner, parce que j'aime bien mettre les gens dans des situations un petit peu embarrassantes. Donc, à vous, Mason, je vous passe la parole. Donc, je n'ai pas préparé de présentation. Je vois que mon collègue John Neve est dans la salle. Il vient et il a pris sa retraite récemment. Et je suis en train d'apprendre davantage d'informations sur l'échelle des menaces au DNS, et en écoutant ces présentations, j'ai pris quelques notes et je voudrais vous faire part du point de vue des bureaux d'enregistrement. Les bureaux d'enregistrement, bien sûr, souhaiteraient à contribuer. Nous passons beaucoup de temps, d'argent, d'efforts et d'énergie à acquérir des clients, et le marché, c'est un marché très concurrentiel. avec très peu de marge bénéficiaire. Nous avons beaucoup de fronts de concurrence, surtout au niveau des prix. Et il est très important que quand nous avons réussi à attirer un client, que nous puissions faire tout ce que nous pouvons pour protéger ce client et le garder, et donc le protéger de dommages éventuels. Donc, nous ne voulons pas de perdre nos clients. Je suis d'accord avec un certain nombre des choses que Bo a dit en ce qui concerne les défis liés à l'utilisation, liés à l'éducation, la formation. C'est ma 20e réunion de l'ICANN, et donc je connais ces questions et je sais maintenant si je suis... Je commence à bien connaître les questions, mais ce n'est pas le cas pour les registrants. La plupart des bureaux d'enregistrement que je connais font un excellent travail d'éducation de leurs clients en ce qui concerne la protection d'un nom de domaine. Est-ce qu'on peut faire mieux? Certainement, il y a toujours de quoi s'améliorer. Mais c'est toujours un secteur qui est très jeune, bien sûr, comme Bo le dit, c'est une question complexe et qui restera complexe pendant longtemps jusqu'à ce que des systèmes plus efficaces continuent d'être introduits. Mais en tant que bureau d'enregistrement, on veut véritablement s'occuper de nos clients et faire en sorte que nos clients comprennent ce qui se passe. En ce qui concerne le RA, la mise à jour a été très utile. Les amendements ont été tout à fait approuvés par les bureaux d'enregistrement et nous voulons vraiment utiliser le RA comme un outil pour nous aider. Et je ne pense pas que le RA doive continuer à être utilisé comme un outil d'élaboration des politiques. Nous avons un processus pour cela et en ce qui concerne les meilleures pratiques, les bureaux d'enregistrement s'intéressent aux meilleures pratiques, aux bonnes pratiques, notamment à l'élaboration des bonnes pratiques et encourager leur utilisation et les utiliser pour éliminer les mauvais acteurs. Et je pense que je vais m'arrêter ici parce que je serais très content d'avoir une discussion. En Australie, nous avons établi un code déontologique qui est un modèle d'autorégulation. Et c'est intéressant de voir que les consommateurs ont réalisé les membres du secteur n'étaient pas tous mauvais. Donc, je suis heureux d'ouvrir les débats maintenant. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent poser une question à ceux qui restent sur l'estrade. Je pose beaucoup de questions cet après-midi. J'ai un petit souci en ce qui concerne la référence constante au nouveau rapport de Nugent. Je sais que Nugent, je pense à Amsterdam, a fait une présentation et en faisant référence aux résultats et les critiques portaient sur non pas l'exactitude des données, mais plutôt sur le fait que Whois était dans une langue qui était impossible à comprendre. Donc, Nugent a fait ses affirmations sur des compagnies et des individus sans véritablement avoir de données, sans s'appuyer sur des données tangibles. Donc, je pense qu'on peut. C'est un peu dangereux de trop s'appuyer sur leur rapport. Est-ce que vous voulez reprendre cela en parlant du registre des données internationalisées? Je suis d'accord. Je pense que c'est le cas de. Nous avons pu constater qu'on a étudié ce rapport Nugent et on a pu voir qu'il y a eu des inexactitudes. Et si nous nous serions heureux de pouvoir nous assurer que les données utiles pour informer, on fait toujours en sorte de s'assurer que les données utiles soient à exactitude. Je sais que c'est un peu perturbant quand on voit que les faits sont des faits révélés au public puissent être vraiment prêtés à confusion parce que les données sont inexactes. Je ne veux pas nécessairement défendre la validité de la recherche de Knudsen. La formation provenait du rapport du mois de mai, mais nous avons une structure at large au sein de l'ICANN qui fait ce type de recherche. Et connaissant Knudsen comme je le connais, je pense que toutes les personnes, tout le monde était invité à se joindre à cette recherche, mais on peut y voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, qui ne correspondaient pas forcément à notre point de vue. On a un peu tendance à réagir dans ces cas-là de façon assez négative, particulièrement vu la façon dont cette information a été publiée d'un point de vue journaliste. D'un point de vue journalistique, même si Knudsen ne se présente pas comme une entité journalistique, quand on fait un rapport sur quelque chose, on ne demande pas l'approbation des gens qui ont un intérêt dans ces rapports. Et je ne pense pas que ça devrait se produire. Mais ceci dit, vous devriez contacter Gareth et les personnes que j'ai mentionnées au début qui ont fait la recherche, parce que personne d'autre ne fait cette recherche. Le CCNSO... Par exemple, je ne vais pas défendre Gareth. Je pense qu'il y a des points avec lesquels on ne peut ne pas être d'accord dans ce rapport. Et nous en prenons note. Mais il y a cependant d'autres sources très fiables que je pourrais partager avec vous, comme par exemple l'Université d'Alabama, d'autres données de Birmingham, le NCFTA. Il y a beaucoup de APW, le groupe de travail sur l'anti-hapçonnage. Il y a beaucoup d'informations qui existent. Et je ne veux pas mentionner des bureaux d'enregistrement, mais si vous regardez ces diapositives, si vous regardez ces bureaux d'enregistrement, vous verrez qu'ils sont aussi importants sur ces listes. Et vous voyez que les bureaux d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement qui sont ici dans cette salle ne sont pas sur cette liste, parce que ce sont ces gens-là qui essayent de faire une bonne chose. Et mon objectif en mettant devant vous ces recommandations et de les présenter au bureau d'enregistrement, c'est pour aider les bureaux d'enregistrement qui veulent vraiment faire quelque chose de bien, qui veulent se distinguer de ceux qui ne font pas un bon travail, parce que les consommateurs comprennent cela. Et on parle ici de marques, pour les trusts, des marques de confiance qui montreraient la nécessité d'avoir certains critères qui peuvent inspirer la confiance des consommateurs. Donc, et les consommateurs font confiance à ces marques. Et si certains bureaux d'enregistrement ont dans leur portefeuille 99% de domaines d'hameçonnage ou de spam, à ce moment-là, c'est ce que je veux, que le secteur puisse être fiable. Et que les gens puissent faire une transaction et savoir qu'ils le puissent faire cette transaction en toute sécurité. Pour reprendre ces deux points, le travail de Beau est excellent, mais en ce qui concerne Knudsen, voilà le problème. quand des données fausses sont présentées, les bureaux d'enregistrement qui sont affectés se trouvent dans une situation où ils doivent se défendre devant leurs clients au sujet de ces données inexactes, ou ils doivent se défendre auprès des journaux, par exemple, alors que les données sont inexactes. Les données de départ sont inexactes. Et donc, il faut au moins vérifier l'entité concernée. Si on veut faire un rapport dans notre... Il est important d'avoir de le faire à partir de données précises, exactes. Oui, je comprends. Je ne suis pas de Nujon, mais Nujon fait partie de la communauté ICANN. C'est une structure at large au sein de l'ICANN. Donc, il faut travailler avec eux, il faut leur parler, il faut les aider. Nous avons contacté les bureaux d'enregistrement. Salueraient toute toute action qui irait dans le sens qui permettrait aux registrants d'avoir un lieu sûr, de faire des transactions commerciales en lieu sûr. Et nous voulons que les bureaux d'enregistrement soient très conscients, être perçus comme étant très conscients des notions de sécurité. Vous voulez un droit de réponse? Non, ça va. J'apprécie le rapport de Beau, mais je voulais simplement mentionner le fait que certaines informations étaient inexactes. Et c'est mon rôle de dire qu'on peut essayer de faire progresser les choses pour améliorer les relations de partenariat. Merci Nigel Roberts de .gg. Je suis rassurée de ce qui vient d'être dit. Si on doit dire des choses sur quelqu'un, il faut être précis, il faut avoir des informations exactes. Mais dans ce que M. Brendler a dit, il y a des allégations en ce qui concerne un certain nombre de membres de la communauté des CCTLD. Vous avez dit que Bill Samech de .nu était participé en pédopornographie parce que vous avez utilisé le terme illégal. Non, c'est pas ce que vous avez fait. Est-ce que je pourrais revoir la diapositive? Et vous avez dit, est-il là? Je ne pense pas. Je l'ai vu dans le couloir il y a quelques jours. Il vient aux réunions de l'ICANN depuis toujours. Si vous voulez attaquer un membre de la communauté, je pense que vous devriez lui envoyer un email avant de le faire, pour le prévenir, parce que peut-être qu'il serait ici s'il avait su que vous auriez dit cela. Je pense que la nature de votre présentation et tout ce que vous avez nommé sur votre diapositive, je pense que c'est assez incorrect. Nous en prenons note et nous allons donner à Beau la possibilité de reprendre ce qu'il a dit pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, illégal, pornographie illégale. Vous mentionnez l'Iran. Ce n'est pas une référence à la pédopornographie. Pour moi, la pornographie illégale et la pédopornographie sont tout à fait similaires. Ça, c'est ma perception. L'illégalité, c'est l'illégalité, quel que soit le type d'illégalité. Tout cela, quand j'ai dit, est-ce que Monsieur Semich est ici? Je pense que je faisais référence. C'est un peu bizarre dans votre communauté. En tout cas, ça paraît très bizarre aux consommateurs que des domaines de code pays peuvent être vendus pour ceux qui payent suffisamment d'argent à un pays. Mais c'est Ce n'est pas exactement... C'est un débat tout à fait différent en ce qui concerne la nature de ce qu'un édificateur en deux lettres sur Internet est et sur ce que les autorités de toute personne régissant un code CCTLD ou l'ICANN fait en termes juridiques. Je pense qu'on pourrait faire un doctorat à ce sujet. Mais quand vous dites que c'est une propriété souveraine, je pense qu'il y a beaucoup de... On pourrait faire tout un débat en ce qui concerne l'origine de l'autorité pour tout TLD sur l'Internet qui était créé avant l'ICANN. Donc, mais le panel de cet après-midi a été rassemblé pour regarder les choses du point de vue des consommateurs. Et les consommateurs n'ont pas été bien informés. Et en fait, trouveraient ça très difficile et même un peu rebutant d'essayer d'être mieux informés. Tout ce que l'ICANN dit, c'est que quand un consommateur veut rechercher chercher quelque chose qu'il suppose appartient à X et qu'en fin de compte ce n'est pas X mais c'est à B que ça appartient, ils sont un peu mal à l'aise. Et je pense que c'est important qu'il y ait une sensibilisation. C'est vrai et je suis d'accord, mais quand on parle de confidentialité sur Internet et quand on parle, quand on voit ici que l'adresse de M. Semich est placée à quelques millimètres de l'expression pornographie illégale, mais je pense que ces allégations existent depuis longtemps. Je ne cherche pas à le défendre. Mon CCTLD, je pense que c'est un sujet important. Il faut être juste. Je pense que nous avons parlé de ce sujet assez longtemps.
Je vais passer à quelque chose d'un peu plus pratique. C'est important. Je me demande si on ne peut pas simplifier les choses en faisant qu'on ait un seul lieu de façon à ce que abus à point de nom du domaine, ça serait le lieu où on pourrait retrouver toutes ces autorités, ces assistances, de façon à ce que si quelqu'un reçoit un mail d'hameçonnage, puisse l'envoyer. Et quelqu'un qui comprend, entre guillemets, qui a cette connaissance, va savoir comment faire. Donc, quelque chose d'aussi facile est à mettre en œuvre. Quelque chose comme ça. Et en Australie, on avait un dispositif de reporting des spams et le régulateur les regarde une ou deux fois par jour et puis ensuite ne va pas chercher beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment très fragmenté. Surtout pour ceux qui se donnent le mal de faire le reporting. Effectivement, il y a une convention qui est dans l'ERFC et il y a une recommandation d'utiliser cette adresse abus ou admin et autres. Donc, il y a un endroit pour se rendre. C'est un peu plus difficile lorsqu'on se sert de format Internet, des pages Internet, des pages automatiques, etc., où toutes les choses ne sont pas aussi facilement générées. Et je ne veux pas obliger à des choses un peu trop lourdes lors de la génération de contenu de pages. Mais ce que je pense, c'est qu'il serait utile d'avoir une idée uniforme, soit par un FAI ou un CCTLD ou un GTLD ou enfin un bureau d'enregistrement de GTLD où on puisse tous les connecter avec la même adresse, ça serait très utile. D'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, je voudrais partager une information pendant que nous étions là cet après-midi. Et ceux qui étaient dans le forum de la gouvernance, j'ai au moins 3 logiciels de réseau social. J'ai observé qu'il y avait il y avait un débordement d'informations dans au site de la Poste australienne parce qu'ils avaient une attaque d'hameçonnage. Et je partage cette URL avec vous parce que c'est maintenant public, mais Joe Strauss, qui fait partie d'ODA, m'a envoyé des informations qui sont maintenant, qui jusqu'à présent étaient confidentielles. Donc, je voudrais remercier les gens qui restent du panel pour ce débat. Passionné, on a beaucoup appris, je pense qu'on continuera, on apprend beaucoup et que nous ferons encore plus de choses ensemble que séparément ou en opposition. Et je voudrais, ceux qui sont là et ceux qui sont partis, je voudrais les applaudir. Donc pour terminer, je voudrais décider si ce genre de choses vaut la peine de votre point de vue en temps et en énergie. Donc, des retours, des remarques, des précisions seront nécessaires par le biais de ce réseau social. Et j'espère que dans les prochains jours, il y aura un wiki avec une boîte à suggestions, etc. Et que toutes les diapositives qui ont servi aujourd'hui, peut-être un peu modifiées, seront disponibles dans les prochains jours dans l'espace réservé à cette réunion. Y avait-il autre chose que vous vouliez rajouter, Wynne? Oui, effectivement, on va suivre et afficher, publier ces diapositives et mettre un wiki en place. Et je promets aux traducteurs et aux scribes, je voudrais vous remercier du fond du cœur. Merci, 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 merci.